Des sous et des hommes. Une émission proposée et présentée par Pascal Fourier. Et aujourd'hui, première émission sur notre nouveau créneau, le vendredi de 18h à 18h30, pour que vous puissiez nous écouter avec plus de facilité. Des sous et des hommes, si vous nous rejoignez pour la première fois, c'est une émission d'éco-pédago qui fait intervenir des économistes, disons, alternatifs, ceux que l'on n'entend pas souvent sur les autres radios. Ici, on ne célèbre pas la bourse, la nouvelle économie, les fonds de pension, la mondialisation libérale, les OGM, on s'interroge sur chacune de ces notions. Les intervenants sont tous de premier plan et leurs efforts de vulgarisation sont à chaque fois, vous le verrez, remarquables. L'animatrice, quant à elle, vous le verrez rapidement, bafouille toujours, pose des questions naïves et surtout laisse toujours ses invités répondre à ses questions dans le temps qu'ils veulent. Elle ne les interrompt pas, ce n'est pas maladresse, mais choix. Première émission donc, et toujours des lectures ou dans des journaux, j'écoute les émissions, etc. Et là, j'avais été étonnée parce que ces derniers temps, j'avais pu lire qu'un certain Stiglitz, qui est l'ancien vice-président de la Banque mondiale, critiquait le Fonds monétaire dans un livre qui a un grand succès, qui s'appelle « La grande désillusion ». Et il semblait même dénoncer, d'une certaine façon, les politiques libérales. Étonnant. Je voulais alors y voir plus clair et je suis allée rencontrer Dominique Plion, qu'on avait déjà écouté plusieurs fois, notamment il avait fait la première émission de Des sous et des hommes avec nous. Il est professeur à l'université de Paris-Nord et il est président du conseil scientifique d'Attac. Alors je voulais comprendre ce que c'était que la Banque mondiale, le FMI, pourquoi on pouvait éventuellement les critiquer. Voici donc les explications de Dominique Plion.
Alors le Fonds monétaire et la Banque mondiale sont deux institutions internationales créées au lendemain de la guerre en 1944 par les accords de Bretton Woods, donc au moment où les alliés vainqueurs donc se sont réunis pour essayer de créer un nouvel ordre monétaire international. Faut pas oublier qu'on dans l'entre-deux guerres, donc entre 1918 et 1939, c'était une période qui avait été très troublée par des crises monétaires, une grande instabilité monétaire et financière, et qui ne sont peut-être pas d'ailleurs sans relation avec la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, les Alliés ont éprouvé le besoin, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de reconstruire cet ordre monétaire et se doter d'institutions chargées précisément de, on dirait aujourd'hui, de gouverner ce nouvel ordre monétaire. Alors, le Fonds monétaire a pour fonction principale de s'occuper de la stabilité du système monétaire international. Au lendemain de la guerre, on avait notamment institué un système de change fixe, donc il fallait que les taux de change soient stables. Les gouvernements veillent à l'équilibre de leur balance des paiements et aussi contrôlent les capitaux, car il faut comprendre qu'à l'époque, on était favorable au contrôle des capitaux. Tiens. Et la Banque mondiale, elle était plutôt chargée d'ailleurs son nom, la Banque mondiale, c'est la Banque mondiale de la reconstruction et du développement, donc chargée de deux choses, la reconstruction de l'après-guerre, puisque les pays avaient été dévastés, l'Europe, le Japon en particulier, et aussi du développement, donc développement des pays en voie de développement. Et donc ces deux fonctions, l'une de stabilité est assurée par le FMI, et la deuxième du développement principalement des pays en voie de développement est assurée par la Banque mondiale.
Ça semble un peu étonnant alors qu'on fasse des reproches au FMI et à la Banque mondiale, puisque ça avait au départ en tous les cas un pouvoir stabilisateur.
Eh bien, on peut dire qu'au départ, elles ont joué assez bien leur rôle. Le Fonds monétaire a contribué, certainement avec d'autres mécanismes, mais a contribué à la stabilité du système international. Mais le système dit de Bretton Woods, qui a été créé au lendemain de la guerre, donc en 1944, a implosé dans les années 70, et on a abandonné par exemple le régime de change fixe, on est passé au flottement des monnaies, et donc on a connu une grande instabilité des monnaies depuis cette période-là.
Flottement des monnaies, c'est-à-dire qu'on n'échange pas toujours le même...
C'est-à-dire que la valeur des monnaies, les unes par rapport aux autres, ce qu'on appelle le taux de change, n'est plus stabilisé à un cours précis, mais on le laisse flotter en fonction de l'offre et de la demande sur le marché.
C'est une décision qui avait été prise par l'ensemble du Fonds monétaire international.
Non, c'est une décision qui a été prise d'abord par les États-Unis, qui était donc le pays dominant en la guerre, qu'il est toujours, de laisser flotter le dollar parce qu'ils ne voulaient plus défendre leur monnaie contre les autres monnaies comme le franc à l'époque, le Deutsche Mark, etc., ou le yen. Et du coup, on a considéré que c'était préférable de laisser flotter les monnaies. Une des raisons de tout cela, c'est que il y a une spéculation qui s'est développée. Contrôle dollar, qui à l'époque était une monnaie qui était assez contestée, et aussi cette spéculation elle s'est développée parce que justement on a laissé se développer les mouvements internationaux de capitaux à une très grande échelle, et donc les spéculateurs ont pris un poids qu'ils n'avaient absolument pas au lendemain de la guerre, et du coup ils étaient en mesure d'attaquer les monnaies et de les faire bouger, quoi, de les chahuter considérablement. C'est pour ça qu'on avait un flottement, c'est-à-dire des variations très fortes des monnaies.
Et à partir de quand, à partir de quel moment ces deux institutions sont-elles vraiment devenues critiquables?
Alors, on peut dire que depuis le début, il y a une sorte de dérive progressive. Elles ont dévié progressivement de leur objectif initial, surtout le Fonds monétaire, qui n'a pas été en mesure de respecter ce qui était, à mon avis, le pacte initial, qui était de mettre en place des instruments pour contrôler les mouvements de capitaux, stabiliser les monnaies, etc. Et tous ces objectifs-là ont été progressivement abandonnés. Et de plus en plus, ces institutions sont devenues le bras armé, l'instrument aux mains des pays riches pour imposer de plus en plus aux pays en voie de développement des règles de plus en plus strictes. Alors ces règles, c'est quoi? C'est la libéralisation, d'abord, donc l'ouverture de ces économies, au mouvement international de capitaux, et d'autre part leur imposer des réformes très dures. C'est ce qu'on appelle les plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire international, c'est-à-dire des politiques de rigueur et d'austérité, de budgétaire notamment, très fortes, pour les obliger à retrouver une plus grande stabilité.
Ça veut dire moins d'écoles,
alors,
santé, c'est ça?
C'est là qu'il y a une contradiction fondamentale et qui est au cœur du problème. C'est que d'un côté, le Fonds monétaire, en effet, imposait des politiques qui aboutissaient à réduire en particulier les dépenses publiques pour équilibrer les budgets. Moins de dépenses publiques dans un pays en voie de développement, c'est quoi? C'est effectivement moins d'écoles, moins de dépenses d'éducation, moins d'hôpitaux, moins de dépenses de santé, moins de dépenses pour irriguer, donc des infrastructures pour l'agriculture, etc. Et donc, c'est opposé au développement. Et donc, on a vu ces deux grands objectifs de l'après-guerre qui étaient valables, qui étaient la stabilité d'un côté et le développement, qu'on a su au début gérer conjointement assez bien, eh bien, ils sont devenus antinomiques. C'est-à-dire que le Fonds monétaire, en imposant ses politiques de stabilité, a en fait imposé aux pays des politiques qui ont nui à leur développement. Et aujourd'hui, bon, si on fait un grand bond en avant et qu'on regarde des pays qui sont en crise, comme l'Argentine, eh bien, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que ces pays ont été, en grande partie, victimes de ces politiques de libéralisation et de rigueur qui ont été imposées par le Fonds monétaire, les plans d'ajustement structurel, qui les ont déstabilisés et qui, aujourd'hui, font que ce sont des pays malades.
Donc, on peut dire, comme Stiglitz, qu'on peut critiquer le Fonds monétaire, mais est-ce que la Banque mondiale elle-même est exemple de critique?
Non, pas du tout. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut faire deux critiques majeures à ces institutions. Et d'ailleurs, dans son livre, Stiglitz fait ces deux critiques, hein. Elles sont devenues inefficaces, c'est-à-dire qu'elles ne remplissent pas leur rôle. Et si elles sont devenues inefficaces, c'est principalement parce que, et Stiglitz le dit, hein, je suis tout à fait d'accord avec cette analyse, c'est parce qu'elles s'appuient sur une doctrine économique qui est complètement inadaptée et qui est perverse. C'est le libéralisme, c'est-à-dire le laisser-faire, le pouvoir des marchés qui s'en limite, et le recul des autorités publiques, de la régulation publique, etc. Et du coup, ce espèce de dogmatisme du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, c'est ça qui explique l'inefficacité de leur politique. Alors, en fait, Stiglitz le dit d'ailleurs lui-même aussi, si le Fonds monétaire et la Banque mondiale défendent ce libéralisme, en fait, c'est parce que, en fait, ils sont au service des multinationales, et que le libéralisme, c'est la doctrine économique qui est la plus favorable aux intérêts des multinationales, c'est le laisser-faire. Donc on laisse faire, on laisse le libre-champ, on ouvre les frontières à ces multinationales qui ne demandent que ça. Le deuxième critique qu'on peut faire au Fonds monétaire et à la Banque mondiale, c'est des institutions absolument non démocratiques. Pourquoi? Parce qu'elles sont dominées par les pays riches. C'est là-bas, dans ces deux institutions, c'est un dollar égale une voix. C'est l'expression qu'on emploie. C'est-à-dire que ce sont les grands actionnaires, les principaux actionnaires de ces institutions qui sont les grands pays industrialisés, les États-Unis, mais également les pays européens, comme la France, par exemple, l'Allemagne, l'Italie et le Japon, sont les principaux, sont les maîtres, en quelque sorte, de ces institutions. Mais on peut dire que c'est surtout les États-Unis qui ont la main mise sur ces organisations. Par exemple, les droits de vote sont fonction donc du poids du pays dans le capital de l'institution, c'est pour ça que je disais un dollar une voix, et que les États-Unis ont 17% des voix, et or, quand on a plus que 15% des voix, on a un droit de veto. C'est-à-dire que les États-Unis, donc, sont en mesure de bloquer toute décision qui ne leur plairait pas. Donc, ils ont un contrôle de facto, et des jurés même, sur ces institutions, et de fait, ils dominent ces institutions totalement.
À l'YFM, des sous et des hommes, et nous sommes en compagnie de Dominique Plignon, le président du conseil scientifique d'ATAC. C'est justement parce qu'il a ce titre-là que je lui ai posé une question, à savoir quelles étaient les propositions que faisait ATAC pour changer, réguler, réformer, ou que sais-je, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, que visiblement ATAC considérait comme le fer de lance de la mondialisation libérale.
Alors en effet, nous visons très particulièrement ces deux institutions, d'ailleurs ainsi que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Donc là ce n'est pas le sujet, mais aujourd'hui, ce sont les trois grandes institutions qui dominent le monde au niveau international. Alors, ce sont des institutions qui sont intergouvernementales, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'en fait, elles ne sont pas supranationales au sens où elles n'ont pas une autonomie, une force supérieure aux États. Ce sont des institutions qui sont très largement donc le fruit d'accords internationaux. Et c'est les principales puissances qui les dominent. Hein. Donc très largement les États-Unis, l'Europe et le Japon, ce qu'on appelle la triade. Alors, quels sont ayant fait ces critiques, et d'ailleurs ATAC nous fait souvent la critique de n'être de démolir et de critiquer, mais jamais de proposer. Bien, on va montrer là, je vais essayer de montrer là, que nous avons précisément des propositions très 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 précises en ce qui concerne ces institutions financières internationales, comme on en a d'ailleurs pour l'OMC. Alors, quelles sont nos propositions? Elles sont de deux ordres. Disons que d'abord, c'est des propositions concernant les politiques du Fonds monétaire et la Banque mondiale, et puis ensuite des propositions, deuxième niveau de proposition, concernant le fonctionnement en tant qu'institution du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Alors, commençons par les premiers points, les politiques. Donc là, nous avons une série de propositions à faire. Alors la première d'entre elles, c'est l'annulation de la dette. Nous pensons qu'il est prioritaire que dans les politiques des institutions financières internationales soit annulée la dette, et en particulier la dette des pays les plus pauvres, parce que ces pays-là sont étranglés aujourd'hui par la dette et que c'est un frein à leur propre développement. C'est même un facteur de sous-développement. Pourquoi ? Parce que les charges, la dette, le remboursement de cette dette, les intérêts de cette dette sont tellement lourds qu'ils empêchent ces pays bien d'investir dans des domaines prioritaires pour le développement, comme l'éducation, la santé par exemple. Et donc là, il y a quelque chose de choquant et de prioritaire. Pourquoi est-ce que c'est choquant ? C'est parce qu'en fait, cette dette pèse sur ces pays-là, alors que les populations n'en sont absolument pas responsables dans le cas des cas. En effet, d'un côté, ce sont les banques des grands pays riches qui imposent, souvent qui proposent des conditions d'endettement très avantageuses au départ pour les pays, en fait, qui rapportent beaucoup d'argent à ces banques. Et d'autre part, c'est les dirigeants, qui sont pas dans des pays qui ne sont pas toujours démocratiques, malheureusement, qui quelquefois détournent ces fonds, d'ailleurs, ou les utilisent d'une manière totalement inefficace. Donc notre proposition concernant l'annulation de la dette, et d'ailleurs ce n'est pas propre à TAC, il y a un grand nombre d'institutions, il y a eu ce qu'on appelle le mouvement Jubilé 2000, qui a fait ces propositions-là, que nous reprenons totalement à notre compte, eh bien, c'est d'organiser une conférence internationale, d'abord, ça serait le premier point, où les pays créanciers, les pays débiteurs se réuniraient et négocieraient, et où seraient actés un certain nombre de principes, par exemple le principe de la co-responsabilité. Il n'y a pas que les pays débiteurs qui sont responsables, il y a aussi les pays créanciers, qui ont probablement poussé ces pays à s'endetter. Il y a la co-responsabilité aussi, c'est d'aller chercher les vrais responsables de l'accumulation de la dette, par exemple les dictateurs de certains de ces pays qui se sont enrichis sur le dos de leur population locale. Donc voilà pour le premier point, c'est donc l'annulation de la dette. Alors parmi les autres mesures que nous proposons, il y en a une deuxième qui est aussi l'abandon des plans d'ajustement structurel. Tout à l'heure on a vu que ces plans d'ajustement structurel qui mettent l'accent sur la stabilité conduisent à des mesures qui sont un frein au développement, puisqu'ils empêchent que les pays continuent d'investir dans les infrastructures, des dépenses publiques, d'infrastructures, éducation, santé, etc. Et donc, l'idée, c'est arrêter ce type de politiques qui sont un frein au développement, renoncer à cette doctrine des plans d'ajustement structurel. Ensuite, autre idée, c'est de trouver des formes de financement, parce que ces pays ont des besoins de financement, bien sûr, qui sont adaptés à ces pays. Alors, il y en a plusieurs que nous mettons en avant. C'est d'abord le financement par les taxes. Donc, nous sommes partisans de ce point de vue-là, pour cette raison, de la taxe Tobin, la taxe sur les transactions de change, pour abonder un fonds mondial de développement qui serait distinct de la Banque mondiale, qui serait d'ailleurs, dans notre esprit, rattaché plutôt aux Nations Unies, ou enceinte dans laquelle c'est un État, une voix, et non pas un dollar, une voix, comme à la Banque mondiale. Donc, ça nous paraît un peu plus démocratique. Et donc, notre idée, c'est effectivement d'avoir des formes de financement nouvelles. Donc, il y a les taxes, il y a le développement de l'aide publique au développement, l'APD, il y a des engagements qui ont été pris par les pays les plus riches qui n'ont pas été respectés, engagement de monter jusqu'à 0,7% de leur produit intérieur brut dans l'aide en développement, et actuellement on en est aux environs de 0,3% au maximum. Donc là, il y a un manque de respect des engagements. Et enfin, inventer des formes, c'est pas difficile d'ailleurs, des formes de prêts qui soient adaptées aux pays en voie de développement. Des prêts à taux très réduits, voire des taux zéro, et aussi avec des formes de conditionnalité qui est la suivante, c'est que si un pays s'endette dans le cadre de ses prêts et qu'il n'arrive pas à rembourser parce que le projet de développement, le projet d'investissement qu'il a mené à bien n'a pas la rentabilité attendue, à ce moment-là, ce pays serait exonéré totalement ou partiellement du remboursement de ses dettes, de manière à ce qu'il ne soit pas étranglé donc par ses dettes. Donc voilà, ça c'est un autre axe de politique que nous préconisons pour faciliter le développement des pays. Et puis, dernière série de mesures que l'on peut mettre en avant aussi, qui serait aussi un changement radical par rapport aux politiques qui ont été menées par le Fonds monétaire et la Banque mondiale, c'est de redonner aux pays qui le souhaitent la possibilité de réintroduire du contrôle des capitaux, de se protéger contre les mouvements internationaux de capitaux de nature spéculative, donc de redevenir maître chez eux, en quelque sorte, de leurs finances. Ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que le Fonds monétaire, comme la communauté financière internationale, le Fonds monétaire étant un peu le bras séculier de cette communauté internationale, c'est-à-dire des investisseurs, des États les plus riches, etc., eh bien, impose au contraire aux pays de se libéraliser, de s'ouvrir en permanence. Et donc nous disons non, c'est le contraire qu'il faut faire. C'est au contraire leur donner la possibilité de se protéger. Donc, vous voyez, toutes ces mesures-là seraient un changement radical par rapport aux pratiques antérieures.
Mais sur la dernière mesure, on pourrait vous rétorquer que vous êtes des sortes de diplodocus qui dataient de Mathusalem en voulant réimposer des barrières d'une certaine façon.
Bien, nous ne pensons pas que ce soit une régression. Au contraire, on pense que la régression a été la libéralisation sauvage imposée aux pays qui n'étaient absolument pas préparés à s'ouvrir. Donc nous pensons que ce n'est pas revenir à Mathusalem que de réintroduire des instruments qui ont fait leur preuve. On a vu des pays comme le Chili, la Malaisie, taxer les mouvements de capitaux, introduire de la réglementation des changes et se protéger ainsi contre la spéculation internationale. Donc nous pensons que ce sont des mesures qui sont tout à fait techniquement faisables et tout à fait efficaces, comme on l'a montré. Donc pour nous, c'est pas du tout revenir à l'archaïsme. Et d'ailleurs, au contraire, je veux dire que c'est revenir à des formes de financement qui ont fait leur preuve dans un certain nombre de pays. La France a été financée en partie dans l'après-guerre par des prêts à bas taux d'intérêt. Eh bien, pourquoi ne pas permettre à ces pays-là, aujourd'hui en voie de développement, de se financer dans les mêmes conditions que nous avons connues, nous. Nous avons aussi bénéficié de l'aide Marshall au lendemain de la guerre, du plan Marshall pour nous reconstruire. Eh bien, pourquoi ne pas avoir aussi une aide publique massive qui aiderait ces pays à décoller, à se développer, selon leurs propres volontés, leurs propres objectifs, parce que là aussi, il se pose une question philosophique, c'est chaque pays doit aussi choisir son modèle de développement. aujourd'hui, nous imposons, nous pays riches, nous pays du Nord, un modèle de développement productiviste avec une accumulation de richesses matérielles incroyables, alors que les pays africains, par exemple, ont des valeurs culturelles, des valeurs sociales et éthiques complètement différentes. Donc laissons-les se développer selon leurs propres normes, selon leurs propres objectifs, et ne leur imposons pas notre modèle. On ne peut pas avoir un changement de politique de ces institutions avec les objectifs que j'indiquais il y a un instant sans qu'elles soient réformées elles-mêmes dans leur fonctionnement. Et réformées dans leur fonctionnement, je vais indiquer deux ou trois pistes que nous avons avancées. Premièrement, peut-être la plus importante, c'est démocratiser ces institutions. Les démocratiser, ça veut dire que avoir un équilibre qui n'existe absolument pas aujourd'hui entre les pays du Nord et du Sud ou les pays créanciers, les pays débiteurs, les pays riches, les pays pauvres, si vous voulez, et de manière à ce que dans les instances dirigeantes, les voix des différents types de pays, différentes régions du monde, les différents niveaux des pays selon leur niveau de développement puissent s'exprimer et éventuellement s'opposer à des mesures qui seraient contraires à leur intérêt. Ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui puisque c'est les États-Unis, l'Europe et le Japon qui décident pour aller vite. Et la démocratie aussi, ça veut dire que les populations locales doivent pouvoir avoir un contrôle sur les mesures qui sont prises par ces organisations localement. Par exemple, si le Fonds monétaire impose un plan, il faut que les populations aient la possibilité, par exemple par voie de référendum, de s'exprimer et de dire, par exemple, qu'elles ne sont pas d'accord et qu'elles font éventuellement des contre-propositions pour aider un pays à sortir d'une crise quand c'est le cas. Par exemple, dans le cas de l'Argentine, on pourrait imaginer ce genre de choses. Donc ça fait partie du mode de fonctionnement. On a aussi une autre idée qui est de rattacher le Fonds monétaire et la Banque mondiale aux Nations Unies, c'est à l'Organisation des Nations Unies, et ça s'inscrit dans une réflexion plus large que nous avons sur l'ensemble des organisations internationales. Nous pensons qu'il doit y avoir une hiérarchie dans les organisations internationales. Aujourd'hui, c'est le Fonds monétaire et la Banque mondiale qui sont au sommet de la pyramide. Bien, nous pensons qu'ils doivent être au contraire en bas de la pyramide. Et qu'au-dessus de la pyramide doivent être des organisations comme l'OIT, qui s'occupe du travail, donc du droit des travailleurs, comme l'UNESCO, la culture, comme l'AFAO qui s'occupe de l'agriculture. Parce que nous pensons que dans ces domaines-là, il y a une priorité et il y a une supériorité de ces organisations par rapport aux valeurs qu'elles défendent. C'est-à-dire, nous pensons que le droit au travail, par exemple, c'est une valeur fondamentale qui est au-dessus, ou le droit à la culture, défendu par l'UNESCO, est au-dessus du droit à échanger des marchandises, qui est par exemple défendu par l'OMC, ou du droit à se financer, qui est le droit des investisseurs, qui est défendu par le Fonds monétaire. Donc, nous pensons qu'en mettant le Fonds monétaire et la Banque mondiale sous la coupe des Nations Unies, on arriverait comme ça à rétablir un équilibre dans le fonctionnement de l'économie mondiale.
Il y a un petit truc que j'ai pas bien compris. Est-ce qu'actuellement, c'est dans le droit que le FMI et la Banque mondiale sont au-dessus des autres grandes institutions internationales? Ou ça marche autrement?
Non, c'est pas le droit. Il n'y a pas de règles écrites, par exemple, qui indiqueraient que le Fonds monétaire ou la Banque mondiale sont au-dessus, par exemple, de l'OIT. Mais c'est dans la pratique, dans la réalité, que les choses se passent ainsi. Et pourquoi? Eh bien parce que nous sommes rentrés dans un monde dans lequel c'est la finance, c'est le commerce international qui sont devenus les vecteurs de la globalisation, qui sont devenus le moteur de la globalisation. Et pour être plus précis, ce sont les multinationales qui vendent des services et des biens à travers le monde, dans l'industrie pharmaceutique, des nouvelles technologies, informatiques, etc. Et puis, ce sont aussi les banquiers, les investisseurs, qui sont vraiment les acteurs dominants de la globalisation actuelle. Et donc, comme le Fonds monétaire et la Banque mondiale, quelque part, défendent finalement les intérêts, comme j'ai essayé de le montrer, de ces acteurs privés, eh bien, ces institutions ont un poids tout à fait considérable. C'est pareil pour l'OMC. L'OMC a pris un poids considérable, l'Organisation mondiale du commerce, parce qu'elle défend les intérêts des vendeurs de canons, des vendeurs de marchandises, de services, etc. Et voilà, donc c'est ça le... Alors, comment faire pour renverser, justement, cette pyramide, pour faire en sorte que ces institutions se retrouvent en bas de la pyramide et qu'elles n'aient plus cette prééminence qu'elles ont actuellement? Bien, nous, une des voies que nous avons, nous proposons avec d'autres, c'est réfléchir à un ordre international où on donnerait beaucoup plus de poids au respect du droit international, des traités internationaux, dont il faut savoir que, par exemple, la Charte des Nations Unies a été signée par la quasi-totalité des États qui sont membres des Nations Unies, qui reprend elle-même cette charte, la Déclaration des droits de l'homme. Et donc, ces traités-là qui sont supérieurs, sont les valeurs universelles, il faudrait qu'on ait des organismes, des instances juridictionnels internationaux de recours pour pouvoir attaquer en justice devant ces instances les multinationales, les banques, les pays, voire le Fonds monétaire ou la Banque mondiale qui, dans leur politique, ne respectent pas la hiérarchie des normes, et notamment les droits fondamentaux des travailleurs. Quand on voit, par exemple, qu'il y a, que les plans d'ajustement structurel du Fonds monétaire jettent à la rue les travailleurs qui sont licenciés, ou bien on ferme les écoles, etc., eh bien là, on a un motif pour attaquer ce Fonds monétaire et la Banque mondiale en disant « Vous menez des politiques qui sont contraires aux droits fondamentaux ». Et donc, à partir du moment où on aurait ces moyens de recours au niveau international, on aurait un levier très intéressant pour obliger ces organisations, en fait, à se soumettre au droit international. Et des jurés, à ce moment-là, elles retomberaient au niveau qui doit être le leur, qui est un niveau subalterne par rapport aux organisations qui défendent les droits fondamentaux.
Voilà, donc c'était des sous et des hommes. Si vous voulez en savoir plus sur la Banque mondiale ou le FMI, vous pouvez bien sûr lire le livre de Joseph Stiglitz, La Grande Désillusion, mais vous pouvez aussi lire le petit livre d'attaque qui sort en octobre justement, Que faire du Fonds monétaire et de la Banque mondiale. Je pense que c'est aux éditions des Mille et Une Nuits. Autrement, on se retrouve la semaine prochaine, et si tout va bien, nous écouterons Éric Toussaint sur la dette du tiers-monde, ce qui fera une bonne suite à cette émission. Et dans 15 jours, nous écouterons José Bové sur les OGM. Voilà, à la semaine prochaine, le vendredi maintenant, de 18h à 18h30.